Première partie. Revenus et capital. Chapitre 1. Revenus et production. Le 16 août 2012, la police sud-africaine intervient dans le conflit opposant les ouvriers de la mine de platine de Marikana près de Johannesburg aux propriétaires de l'exploitation, les actionnaires de la compagnie Landmin, basée à Londres. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les grévistes. Bilan, 34 morts parmi les mineurs. Comme souvent en pareil cas, le conflit social s'était focalisé sur la question salariale. Les mineurs demandaient que leur salaire passe de 500 euros par mois à 1000 euros. Après le drame, la compagnie proposera finalement une augmentation de 75 euros par mois. Cet épisode récent vient nous rappeler, si besoin est, que la question du partage de la production entre salaires et profits, entre revenus du travail et revenus du capital, a toujours constitué la première dimension du conflit distributif. Dans les sociétés traditionnelles, déjà, l'opposition entre le propriétaire foncier et le paysan, entre celui qui possède la terre et celui qui apporte son travail, celui qui reçoit la rente foncière et celui qui la verse, était au fondement de l'inégalité sociale et de toutes les révoltes. La révolution industrielle semble avoir exacerbé le conflit capital-travail, peut-être parce que sont apparues des formes de production plus intensives en capital, machines, ressources naturelles, etc., que par le passé. Ou bien peut-être aussi parce que les espoirs placés dans une répartition plus juste et un ordre social plus démocratique ont été déçus. Nous y reviendrons. En tout état de cause, ces événements tragiques de Marikana nous renvoie inévitablement à des violences plus anciennes. À Haymarket Square, à Chicago, le 1er mai 1886, puis de nouveau à Fourmi, dans le nord de la France, le 1er mai 1891, les forces de l'ordre avaient tiré mortellement sur des ouvriers en grève qui demandaient des augmentations de salaire. L'affrontement capital-travail appartient-il au passé ou bien sera-t-il l'une des clés du XXIe siècle ? Dans les deux premières parties de ce livre, nous allons nous intéresser à la question du partage global du revenu national entre travail et capital et à ses transformations depuis le XVIIIe siècle. Nous allons temporairement oublier la question des inégalités à l'intérieur des revenus du travail, par exemple entre l'ouvrier, l'ingénieur et le directeur d'usine, ou à l'intérieur des revenus du capital, par exemple entre petits, moyens et gros actionnaires ou propriétaires, dont nous reprendrons l'examen dans la troisième partie. Évidemment, chacune de ces deux dimensions de la répartition des richesses, la répartition dite factorielle, opposant les deux facteurs de production que sont le capital et le travail, considérés artificiellement comme des blocs homogènes, et la répartition dite individuelle, concernant l'inégalité des revenus du travail et du capital au niveau des individus, jouent en pratique un rôle fondamental, et il est impossible d'aboutir à une compréhension satisfaisante du problème de la répartition sans les analyser conjointement. La répartition factorielle est parfois appelée fonctionnelle ou macroéconomique, et la répartition individuelle est parfois dite personnelle ou microéconomique. En réalité, les deux dimensions de la répartition mettent en jeu des mécanismes à la fois microéconomiques, c'est-à-dire qui doivent être analysés au niveau d'entreprises ou d'agences individuelles, et macroéconomiques, c'est-à-dire qui ne peuvent être compris qu'au niveau de l'économie nationale, voire de l'économie mondiale. D'ailleurs, en août 2012, les mineurs de Marikana n'étaient pas seulement en grève contre les profits jugés excessifs du groupe Landmin, mais également contre l'inégalité des salaires entre ouvriers et ingénieurs, et contre le salaire apparemment mirobolant du directeur de la mine, 1 million d'euros par an, d'après les grévistes. De même, si la propriété du capital était répartie de façon rigoureusement égalitaire, et si chaque salarié recevait une part égale des profits en complément de son salaire, la question du partage profit-salaire n'intéresserait presque personne. Si le partage capital-travail suscite tant de conflits, c'est d'abord et avant tout du fait de l'extrême concentration de la propriété du capital. De fait, dans tous les pays, l'inégalité des patrimoines et des revenus du capital qui en sont issus est toujours beaucoup plus forte que l'inégalité des salaires et des revenus du travail. Nous analyserons ce phénomène et ses causes dans la troisième partie. Dans un premier temps, nous allons prendre comme donnée l'inégalité des revenus du travail et du capital, et nous allons concentrer notre attention sur le partage global du revenu national entre capital et travail. Que les choses soient bien claires, mon propos ici n'est pas d'instruire le procès des travailleurs contre les possédants, mais bien plutôt d'aider chacun à préciser sa pensée et à se faire une idée. Certes, l'inégalité capital-travail est extrêmement violente sur le plan symbolique. Elle heurte de plein fouet les conceptions les plus communes de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et il n'est guère étonnant que cela débouche parfois sur la violence physique. Pour tous ceux qui ne possèdent que leur travail et qui souvent vivent dans des conditions modestes, voire très modestes dans le cas des paysans du XVIIIe siècle, comme dans celui des mineurs de Marikana, il est difficile d'accepter que les détenteurs du capital, qui le sont parfois de façon héréditaire, au moins en partie, puissent sans travailler s'approprier une part significative des richesses produites. Or, la part du capital peut atteindre des niveaux considérables, souvent entre le quart et la moitié de la production, parfois plus de la moitié dans des secteurs intensifs en capital, tels que l'extraction minière, voire davantage lorsque des situations de monopole locaux permettent aux propriétaires de s'approprier une part plus élevée encore. Et en même temps, chacun peut comprendre que si la totalité de la production était consacrée au salaire, et si rien n'allait au profit, alors il serait sans doute difficile d'attirer des capitaux permettant de financer de nouveaux investissements. Tout du moins, dans le mode d'organisation économique actuel, on peut bien sûr en imaginer d'autres. Sans compter qu'il n'est pas forcément justifié de supprimer toute rémunération pour ceux qui choisissent d'épargner plus que d'autres, à supposer bien entendu qu'il s'agisse là d'une source importante de l'inégalité des fortunes, question que nous examinerons également. Et sans oublier non plus qu'une part de ce que l'on désigne comme « revenu du capital » correspond parfois à une rémunération du travail entrepreneurial, au moins en partie, et devrait sans doute être traitée comme les autres formes de travail. Cet argument classique devra lui aussi être étudié de près. Compte tenu de tous ces éléments, quel est le bon niveau de partage capital-travail? Est-on bien sûr que le libre fonctionnement d'une économie de marché et de propriété privée conduise partout et toujours à ce niveau optimal, comme par enchantement? Comment, dans une société idéale, devrait-on s'organiser le partage capital-travail et comment faire pour s'en approcher? Le partage capital-travail dans le long terme, pas si stable. Pour avancer modestement dans cette réflexion et tenter au moins de préciser les termes d'un débat apparemment sans issue, il est utile de commencer par établir les faits aussi précisément et minutieusement que possible. Que sait-on exactement de l'évolution du partage capital-travail depuis le XVIIIe siècle? Pendant longtemps, la thèse la plus répandue parmi les économistes, diffusée un peu trop hâtivement dans les livres de cours, a été celle d'une très grande stabilité à long terme du partage du revenu national entre travail et capital, généralement autour de 2/3, 1/3, environ 65-70% pour les salaires et autres revenus du travail, et 30-35% pour les profits, loyers et autres revenus du capital. Grâce au recul historique et aux nouvelles données dont nous disposons, nous allons démontrer que la réalité est nettement plus complexe. D'une part, le partage capital-travail a connu au cours du siècle écoulé des retournements de grande ampleur à la mesure de l'histoire politique et économique chaotique du XXe siècle. Les mouvements du XIXe siècle, déjà évoqués dans l'introduction, hausse de la part du capital dans la première moitié du siècle, légère baisse et stabilisation ensuite, semblent en comparaison bien paisibles. Pour résumer, les chocs du premier XXe siècle, 1914-1945, à savoir la Première Guerre mondiale, la Révolution bolchevique de 1917, la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale et les nouvelles politiques de régulation, de taxation et de contrôle public du capital issues de ces bouleversements, ont conduit à des niveaux historiquement bas pour les capitaux privés dans les années 1950-1960. Le mouvement de reconstitution des patrimoines se met en place très vite, puis s'accélère avec la révolution conservatrice anglo-saxonne de 1979-1980. l'effondrement du bloc soviétique en 1989-1990, la globalisation financière et la dérégulation des années 1990-2000, événements qui marquent un tournant politique allant en sens inverse du tournant précédent et qui permettent aux capitaux privés de retrouver au début des années 2010, malgré la crise ouverte en 2007-2008, une prospérité patrimoniale inconnue depuis 1913. Tout n'est pas négatif dans cette évolution et dans ce processus de reconstitution des patrimoines qui est en partie naturel et souhaitable. Mais cela change singulièrement la perspective que l'on peut avoir sur le partage capital-travail en ce début de XXIe siècle et les évolutions possibles pour les décennies qui viennent. D'autre part, au-delà de ce double retournement du XXe siècle, si l'on prend maintenant une perspective de très long terme, alors la thèse d'une complète stabilité du partage capital-travail se heurte au fait que la nature même du capital s'est radicalement transformée. Du capital foncier et terrien du XVIIIe siècle au capital immobilier, industriel et financier du XXIe siècle. Et surtout à l'idée selon laquelle la croissance moderne se caractériserait par la montée en puissance du capital humain. Thèse également très répandue parmi les économistes, et qui de prime abord semble impliquer une augmentation tendancielle de la part du travail dans le revenu national. Nous verrons qu'une telle tendance de très long terme est peut-être à l'œuvre, mais dans des proportions relativement modestes. La part du capital non humain, en ce début de XXIe siècle, apparaît à peine plus faible que ce qu'elle était au début du XIXe siècle. Les très hauts niveaux de capitalisation patrimoniale observés actuellement dans les pays riches semble s'expliquer avant tout par le retour à un régime de croissance faible de la population et de la productivité, doublé d'un retour à un régime politique objectivement très favorable aux capitaux privés. Pour bien comprendre ces transformations, nous verrons que l'approche la plus féconde consiste à analyser l'évolution du rapport capital-revenu, c'est-à-dire le rapport entre le stock total de capital et le flux annuel de revenus et de production, et non seulement du partage capital-travail, c'est-à-dire le partage du flux de revenus et de production entre revenus du capital et du travail, plus classiquement étudié dans le passé, en grande partie, faute de données adéquates. Mais avant de présenter tous ces résultats de façon détaillée, il nous faut procéder par étapes. La première partie de ce livre a pour objectif d'introduire les notions fondamentales. Dans la suite de ce chapitre 1, nous allons commencer par présenter les concepts de production intérieure et de revenu national, de capital et de travail, et de rapport capital-revenu. Puis, nous examinerons les transformations de la répartition mondiale de la production et du revenu depuis la révolution industrielle. Dans le chapitre 2, nous analyserons l'évolution générale des taux de croissance au cours de l'histoire, évolution qui jouera un rôle central pour la suite de l'analyse. Une fois ces préalables posés, nous pourrons étudier dans la deuxième partie de ce livre la dynamique du rapport capital-revenu et du partage capital-travail en procédant, là encore, par étapes. Dans le chapitre 3, nous examinerons les transformations de la composition du capital et du rapport capital-revenu depuis le XVIIIe siècle, en commençant par le cas du Royaume-Uni et de la France, le mieux connu sur très longue période. Le chapitre 4 introduira ensuite le cas de l'Allemagne et surtout de l'Amérique, qui complète utilement le prisme européen. Enfin, les chapitres 5 et 6 tenteront d'étendre ces analyses à l'ensemble des pays riches, et dans la mesure du possible, à l'ensemble de la planète, et d'en tirer les leçons pour la dynamique du rapport capital-revenu et du partage capital-travail au niveau mondial en ce début de XXIe siècle. La notion de revenu national. Il est utile de commencer par présenter la notion de revenu national à laquelle nous aurons fréquemment recours dans ce livre. Par définition, le revenu national mesure l'ensemble des revenus dont disposent les résidents d'un pays donné au cours d'une année, quelle que soit la forme juridique que prennent ces revenus. Le revenu national est étroitement relié à la notion de produit intérieur brut, PIB. Souvent utilisé dans le débat public avec toutefois deux différences importantes. Le PIB mesure l'ensemble des biens et services produits au cours d'une année sur le territoire d'un pays donné. Pour calculer le revenu national, il faut commencer par soustraire du PIB la dépréciation du capital qui a permis de réaliser ces productions, c'est-à-dire l'usure des bâtiments, équipements, machines, véhicules, ordinateurs, etc., utilisés au cours d'une année. Cette masse considérable, qui atteint actuellement de l'ordre de 10% du PIB dans la plupart des pays, ne constitue en effet un revenu pour personne. Avant de distribuer des salaires aux travailleurs, des dividendes aux actionnaires ou de réaliser des investissements véritablement nouveaux, il faut bien commencer par remplacer ou réparer le capital usagé. Et si on ne le fait pas, alors cela correspond à une perte de patrimoine, donc à un revenu négatif pour les propriétaires. Une fois déduite la dépréciation du capital du produit intérieur brut, on obtient le produit intérieur net, que nous appellerons plus simplement production intérieure, et qui est typiquement égal à 90% du PIB. Puis il faut ajouter les revenus nets reçus de l'étranger, ou bien retrancher les revenus nets versés à l'étranger suivant la situation du pays. Par exemple, un pays dont l'ensemble des entreprises et du capital est possédé par des propriétaires étrangers peut fort bien avoir une production intérieure très élevée, mais un revenu national nettement plus faible, une fois déduits les profits et loyers partant à l'étranger. Inversement, un pays possédant une bonne partie du capital d'autres pays peut disposer d'un revenu national beaucoup plus élevé que sa production intérieure. Nous reviendrons plus loin sur des exemples de ces deux types de situations tirées de l'histoire du capitalisme et du monde actuel. Précisons d'emblée que ce type d'inégalité internationale peut être générateur de très fortes tensions politiques. Il n'est pas anodin pour un pays de travailler pour un autre pays et de lui verser durablement une part significative de sa production sous forme de dividendes ou de loyers. Pour qu'un tel système puisse tenir, jusqu'à un certain point, il doit souvent s'accompagner de relations de domination politique comme ce fut le cas à l'époque du colonialisme, quand l'Europe possédait de fait une bonne part du reste du monde. Une des questions centrales de notre enquête est de savoir dans quelle mesure et sous quelles conditions ce type de situation est susceptible de se reproduire au cours du XXIe siècle, éventuellement sous d'autres configurations géographiques, par exemple avec l'Europe dans le rôle du possédé plutôt que du possédant, crainte actuellement fort répandue sur le vieux continent. Peut-être trop, nous verrons. À ce stade, contentons-nous de noter que la plupart des pays, riches ou émergents, sont actuellement dans des situations beaucoup plus équilibrées que ce que l'on imagine parfois. En France comme aux États-Unis, en Allemagne comme au Royaume-Uni, en Chine comme au Brésil, au Japon comme en Italie, le revenu national n'est aujourd'hui pas très différent de la production intérieure, à 1% ou 2% près. Autrement dit, dans tous ces pays, les flux entrant et sortant de profits, d'intérêts, de dividendes, de loyers, etc., s'équilibrent à peu près avec généralement des revenus nets reçus de l'étranger, légèrement positifs pour les pays riches. En première approximation, les résidents de ces différents pays possèdent au travers de leurs placements immobiliers et financiers à peu près autant de richesses dans le reste du monde que le reste du monde en possède chez eux. Contrairement à une légende tenace, la France n'est pas possédée par les fonds de pension californiens ou la Banque de Chine, pas plus que les États-Unis ne sont la propriété des investisseurs japonais ou allemands. La crainte de telle situation est tellement forte que les fantasmes devancent souvent, en cette matière, la réalité. Aujourd'hui, la réalité est que l'inégalité du capital est beaucoup plus domestique qu'internationale. Elle oppose davantage les riches et les pauvres à l'intérieur de chaque pays que les pays entre eux. Mais il n'en a pas toujours été ainsi dans l'histoire, et il est parfaitement légitime de se demander sous quelles conditions cette situation peut évoluer au cours du XXIe siècle, d'autant plus que certains pays, le Japon, l'Allemagne, les pays pétroliers et à un moindre degré la Chine, ont accumulé dans le passé récent des créances non négligeables, quoique nettement inférieure à ce jour aux records coloniaux vis-à-vis du reste du monde. Nous verrons également que la très forte progression des participations croisées entre pays, chacun est possédé pour une large part par les autres, peut légitimement accroître le sentiment de dépossession, y compris si les positions nettes sont relativement faibles. Pour résumer, au niveau de chaque pays, le revenu national peut être supérieur ou inférieur à la production intérieure, suivant que les revenus nets reçus de l'étranger sont positifs ou négatifs. Revenu national égale production intérieure plus revenu net reçu de l'étranger. Le revenu national est aussi appelé produit national net, par opposition au produit national brut, PNB, qui inclut la dépréciation du capital. Nous utiliserons l'expression revenu national plus simple et plus intuitive. Les revenus nets issus de l'étranger sont définis comme la différence entre les revenus reçus de l'étranger et les revenus versés à l'étranger. Ces flux croisés concernent principalement les revenus du capital, mais incluent aussi les revenus du travail et les transferts unilatéraux, par exemple des migrants vers leur pays d'origine. Au niveau mondial, les revenus reçus et versés à l'étranger s'équilibrent, si bien que le revenu est par définition égal à la production. Revenu mondial égale production mondiale. Le revenu mondial est naturellement défini comme la somme du revenu national des différents pays et la production mondiale comme la somme de la production intérieure des différents pays. Cette égalité entre les flux annuels de revenus et de production est une évidence conceptuelle et comptable, mais elle traduit une réalité importante. Au cours d'une année donnée, il n'est pas possible de distribuer plus de revenus que de nouvelles richesses n'ont été produites, sauf à s'endetter vis-à-vis d'un autre pays, ce qui n'est pas possible au niveau mondial. Inversement, toute la production doit être distribuée sous forme de revenus, d'une façon ou d'une autre, soit sous forme de salaires, traitements, honoraires, primes, etc., versés aux salariés et aux personnes qui ont apporté le travail utilisé dans la production, revenus du travail, soit sous forme de profits, dividendes, intérêts, loyers, royalties, etc., revenant au propriétaire du capital utilisé dans la production, revenu du capital.